Bon début de semaine à tous. Merci d'écouter votre fréquence communautaire locale CILS FM 107,9 à Victoria. Nous avons actuellement 6 degrés au centre-ville et nous entrons ensemble dans l'émission Le Débrief, un rendez-vous quotidien à vocation d'information. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous accompagne jusqu'à 17 heures. En fin d'émission, aujourd'hui, après tous les bulletins et revues de presse, je m'entretiens avec Maurice Guibord, que plusieurs connaissent pour son rôle de président de la Société historique francophone de Colombie-Britannique. Ce Vancouverois nous a d'ailleurs rendu visite récemment à l'occasion du 30e anniversaire de l'Association historique francophone de Victoria, juste avant les fêtes. Mais le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Maurice va sans doute en étonner plusieurs. Il se trouve que Maurice Guibord, en effet, est l'un des plus grands collectionneurs d'objets associés à Expo 67 au Canada, Expo universelle de Montréal 1967. Il va nous en parler vers 16h45 et va nous donner un avant-goût, en quelque sorte, d'une conférence qu'il va prononcer cette semaine. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. 8e sommet mondial Vibrant Gujarat qui a eu lieu en Inde. 12 pays, dont le Canada, ont pris part au sommet. John Peckman, commissaire à la concurrence du Canada, a dit qu'il s'agissait de promouvoir la concurrence, d'échanger des pratiques exemplaires et de travailler en collaboration pour que les marchés demeurent innovateurs pour les Canadiennes et Canadiens au pays et à l'étranger. Le commissaire a décrit le point de vue du Canada sur l'application du droit sur la concurrence dans le cadre d'un groupe de discussion. Le sommet a rassemblé notamment des représentants gouvernementaux et des dirigeants d'entreprises pour parler de la coopération aux frontières. L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires fédéraux et provinciaux en santé publique pour faire enquête sur une éclosion d'infection E. coli O-121. La source de l'éclosion n'a pas été identifiée encore et l'enquête se poursuit. L'agence a souligné dans un communiqué que la majorité des E. coli sont inoffensives pour l'humain, mais certaines variétés peuvent provoquer des maladies graves. Au total, 12 cas d'infection ont été signalés dans 3 provinces, 4 en Colombie-Britannique, 4 en Saskatchewan et 4 à Terre-Neuve-Labrador. L'infection s'est déclarée à la fin de 2016. Catherine McKenna doit prononcer aujourd'hui une allocution à la rencontre nationale des intervenants de Parlons de Parc Canada. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parc Canada doit prendre la parole à l'hôtel Weston à Ottawa. Jane Philpott est en France aujourd'hui. La ministre canadienne de la Santé prend part au forum sur la politique de santé de l'OCDE à Paris. Le forum réunit les ministres de la Santé, des experts du système de santé et des intervenants. Ils doivent discuter de la façon dont les systèmes de santé peuvent assurer des soins axés sur le patient. Ils doivent explorer également les façons d'utiliser les technologies numériques en regard des enjeux mondiaux en matière de santé. L'effervescence est de plus en plus palpable aux États-Unis à l'approche de la cérémonie de vendredi qui verra Donald Trump devenir le 45e président de l'histoire américaine. Les autorités ont déclaré aux médias au cours des derniers jours que les mesures de sécurité seront rehaussées en raison des manifestations possibles. Déjà, des pamphlets ont été apposés sur certains immeubles de la capitale américaine pour encourager les gens à crier leur opposition à Trump. Toujours aux États-Unis, dossier de cette possible rencontre en Islande entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien, le Sunday Times de Londres a cité des sources britanniques qui indiqueraient qu'une telle rencontre serait du domaine du possible. Citant des sources anonymes, eh bien, le quotidien britannique avance que Moscou serait favorable à un sommet entre les deux hommes. Pendant ce temps, une porte-parole de Donald Trump a dit que c'était totalement faux. Le gouvernement islandais a dit ne pas être au courant d'un tel projet. Semaine nationale sans fumée au Canada, bien il s'agit de la 30e édition de l'événement et selon le site web de l'événement, il s'agit de l'un des événements les plus anciens et les plus importants en santé publique. Le site souligne que les buts sont multiples, notamment renseigner les Canadiennes et Canadiens sur les dangers du tabagisme, empêcher les non-fumeurs de commencer à fumer la cigarette et aider les gens à renoncer au tabagisme et mettre de l'avant un rythme de vie sain. Des élus de Montréal maintenant voudraient que la ville soit candidate pour la présentation de l'Expo universelle de 2025. Les conseillers Marvin Rotrund et Justine McIntyre vont proposer la candidature de la ville lors de la prochaine rencontre du conseil municipal. Du moins, des discussions sont prévues. Les villes ont jusqu'au 22 mai pour déposer leur candidature. La ville hôtesse sera annoncée en novembre 2018. Le Canada a présenté à deux occasions ce rendez-vous annuel, en 1967 à Montréal et à Vancouver en 1986. Au sport dans la NFL, présentation de deux autres matchs de finale de division hier et victoire de Pittsburgh à Kansas City contre les Chiefs 18-16. 6 placements pour le batteur de précision des Steelers, Chris Boswell. Il a établi une nouvelle marque de la NFL. Et à Dallas, c'est bien victoire des Packers de Green Bay 34-31 contre Dallas. Le week-end prochain verra maintenant les finales de conférence. À Foxborough, les Patriots recevront les Steelers de Pittsburgh et Atlanta recevra Green Bay. Au hockey, victoire du New Jersey en prolongation 2-1 contre Vancouver. Ce soir, Montréal sera à Détroit, Winnipeg à San Jose et l'Arizona à Edmonton. Dans la NBA, victoire des Raptors 116-101 contre les Knicks de New York. Et au tennis, début de l'Omnium d'Australie, Angelique Kerber chez les dames et Andy Murray chez les hommes sont les favoris pour remporter le premier titre majeur de la saison 2017.
C'était les bulletins de notre fidèle collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief en ce lundi 16 janvier, les 16h06 et des poussières. Alexis Gagnon au micro avec vous jusqu'à 17h. Nous allons nous tourner vers la météo. C'est 6 degrés actuellement au centre-ville de Victoria, 5 degrés du côté de l'aéroport. Il y a des averses dispersées un petit peu partout sur le sud de l'île de Vancouver à 16h06. Donc de la pluie du côté de Souk, de la pluie du côté de l'aéroport justement, et Environnement Canada nous prévoit de la pluie intermittente justement au cours de la soirée. Le mercure va rester à 5 degrés, donc c'est assez chaud par rapport à ce qu'on a connu au cours des jours précédents. Et pour demain, mardi 17 janvier, maximum de 9 degrés avec de la pluie intermittente. Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20, c'est également la pluie qui reste installée sur la région, donc pluie intermittente, des maximums qui oscillent entre 8 et 12 degrés au cours des prochains jours. Donc voilà pour le petit coup d'œil météo. Nous nous rendons de ce pas vers le Radio-Journal des Nations Unies et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal d'ONU Info. En titre, plaidoyer conjoint des agences humanitaires pour les 700 000 Syriens qui se retrouvent dans des localités assiégées. Le HCR se félicite du secours porté par les gardes-côtes italiens qui ont sauvé 1 500 personnes en 3 jours. L'ONUDC lance un manuel pour éradiquer l'extrémisme violent dans les prisons. L'UNESCO annonce le départ du premier bateau autonome en énergie. Et en dossier, les violations des droits de l'homme persistent au Soudan du Sud. À la veille de l'ouverture du forum de Davos, 5 hauts responsables des Nations Unies réclament ce lundi un accès humanitaire immédiat auprès des personnes toujours assiégées en Syrie. Quelques 700 000 Syriens demeurent piégés dans 15 zones assiégées et près de 5 millions de personnes, dont plus de 2 millions d'enfants, vivent dans des zones extrêmement difficiles à atteindre pour l'aide humanitaire en raison des combats, de l'insécurité et d'un accès limité. Geneviève Boutin de l'UNICEF à Amman nous explique pourquoi.
Premièrement, le fait que nous approchons de la date triste de l'anniversaire de 6 ans de guerre civile en Syrie, avec toutes les souffrances que cela implique pour les gens qui ont été affectés par la guerre civile. Deuxièmement, parce qu'avec la fin du siège de la partie est de la ville d'Aleppo, on a vu sortir un peu de l'attention du public cette situation en Syrie. Et nous tenons à rappeler au public et à tous ceux qui ont de l'influence sur les partis au conflit en Syrie qu'il y a toujours 700 000 personnes, dont 300 000 enfants, qui vivent assiégés en Syrie aujourd'hui depuis des mois, sinon des années. D'abord, c'est un moment important pour faire en sorte que les gens les plus influents du monde entier utilisent leur influence pour qu'on puisse vraiment faire comprendre aux parties en conflit en Syrie qu'il est temps de mettre un fin à cette guerre, évidemment d'une part, et entre-temps de vraiment mettre à l'avant tout ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir accès aux gens qui ont besoin d'aide humanitaire où qu'ils soient en Syrie.
Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est félicité dimanche de l'intervention des gardes-côtes italiens en Méditerranée. En collaboration avec Frontex, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, ces gardes-côtes ont porté secours lors des trois derniers jours à quelques 1500 personnes à bord d'embarcations confrontées à une mer démontée et à des conditions dégradées. Le détail avec Cécile Pouilly, porte-parole du HCR.
Il y a eu des secours apportés à environ 1500 personnes. Nous savons qu'il y a eu au moins une embarcation au large des côtes libyennes qui a basculé. Et dans ce cadre-là, les opérations européennes ont permis de repêcher au moins 8 corps sans vie. Nous savons également qu'un navire français qui opérait dans le cadre de Frontex a aussi secouru samedi 4 personnes qui étaient en train de dériver au large des côtes libyennes. Et nous avons reçu des témoignages faisant état d'au moins une centaine de personnes qui auraient embarqué à bord d'un canot pneumatique qui se serait dégonflé au large de la Libye. Et avant-hier, les gardes-côtes italiens ont secouru également 34 personnes près d'une plateforme pétrolière au large des côtes libyennes.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a lancé ce lundi un nouveau manuel sur la gestion des prisonniers extrémistes violents et la prévention de la radicalisation dans les prisons. Une soixantaine d'experts de 25 pays, praticiens et onusiens, ont contribué à cet ouvrage destiné au personnel pénitentiaire à travers le monde. L'ouvrage répond à une demande des États membres et recueille des conseils pratiques pour mieux cibler la réponse apportée. Explication de Piera Barzano de la Division Justice de l'ONU-DC.
La question est toujours d'essayer de voir qui sont ceux avec lesquels, en fait, avec beaucoup d'efforts, on peut plutôt travailler avec des programmes dédiés et qui sont, en fait, ce qu'on appelle les opportunistes, qui, en fait, sont peut-être les groupes les plus larges qui peuvent bénéficier d'une attention particulière. Il y a toujours des causes, comme dans d'autres formes de criminalité, qui ont poussé la personne à engager dans des activités illicites. Et donc, peut-être aussi, cette radicalisation violente devient une espèce de réponse à des problèmes, soit personnels, soit des types, en fait, de manque de préparation au niveau du travail ou de l'éducation. Et là, justement, nous donnons des exemples dans les manuels aussi, sur comment on peut essayer aussi d'identifier qui est qui dans ces groupes de détenus assez variés pour ne pas, en fait, intervenir de manière trop forte ou pas assez forte, ou, en fait, plutôt avoir le résultat contraire.
Energy Observer, c'est le nom du premier bateau totalement autonome en énergie qui partira en 2017 pour un tour du monde de 6 ans dans 50 pays avec 101 escales. Objectif, prouver qu'un monde plus propre est possible et promouvoir les énergies renouvelables. Energy Observer est propulsé grâce à une chaîne de production hydrogène complète couplée aux énergies renouvelables. Le projet est appuyé par l'UNESCO. Victorien Russard, navigateur et officier de marine marchande, et Jérôme Delafosse, explorateur et réalisateur de documentaires, seront tous deux à bord du bateau.
Energy Observer, c'est le tout premier navire hydrogène autour du monde. La particularité de ce bateau, c'est qu'on va fonctionner avec un mix d'énergie renouvelable, de l'éolien, du solaire, de l'hydrolien. On va avoir une aile de traction automatisée. En fait, l'idée, c'est de viser l'autonomie énergétique. Et cette autonomie, elle peut être transposée dans des applications terrestres telles que des bâtiments, des écoles, des hôtels, etc.
Pour la première fois, grâce à Energy Observer, on va pouvoir explorer les océans sans laisser de traces derrière nous. Donc ce bateau a un double programme. D'une part, tester ses technologies en milieu marin, donc en milieu extrême. Et d'autre part, on va réaliser 101 escales à travers le monde pour aller à la rencontre de solutions durables pour la transition énergétique.
Retour sur l'actualité avec le Soudan du Sud. Un rapport de l'ONU publié ce lundi fait état de violations graves des droits de l'homme, notamment de meurtres et de viols collectifs, ainsi que de violations graves du droit international humanitaire commises à Djouba pendant et après les combats survenus entre le 8 et 12 janvier 2016. Or, 6 mois après ces violences, l'impunité reste de mise et les violations se poursuivent. Pour en savoir plus, Jérôme Longuet a joint Djouba, Eugène Nindorera, directeur de la Division des droits de l'homme des Nations Unies et représentant du haut commissaire au Soudan du Sud.
Il il y a eu des violations graves et des violations de toutes sortes qui vont des violations les plus graves contre des civils qui ont été tués et certains ont été tués à cause de leur appartenance ethnique. Il y a eu aussi de graves cas de viol, parfois même en réunion, et ça ce sont des cas qu'on a pu constater ici et là. Et on a aussi eu d'autres violations graves telles que des vols et des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont été arrêtées, des personnes aussi qui ont disparu et dont on n'a pas bien retrouvé les traces. Donc toutes ces violations sont quand même des violations extrêmement graves. Mais l'un des problèmes majeurs, qui est un problème récurrent dans le contexte du Sud-Soudan, c'est qu'on ne voit pas des actions concrètes qui sont prises pour que les personnes qui sont accusées de ces violations des droits de l'homme répondent de leurs actes et puissent être traduits devant la justice. Il y a quelques cas qui sont traduits devant la justice, mais ils restent relativement mineurs par rapport au nombre de violations qu'on a pu constater.
Qu'est-ce que justement votre bureau peut faire sur place au-delà donc du recueil important de certains témoignages? Est-ce qu'il faut un travail supplémentaire? Est-ce qu'il faut que les personnes aient moins peur pour témoigner?
Bon, ça c'est effectivement l'un des problèmes parce que il y a un environnement qui n'est pas toujours favorable pour permettre aux victimes et aux témoins d'aller se plaindre devant les autorités compétentes. Et parfois, elles n'ont pas vraiment non plus confiance que les autorités vont pouvoir poursuivre les personnes qui sont impliquées, spécialement lorsqu'il s'agit de militaires qui sont impliqués dans les violations des droits de l'homme, ce qui est la réalité. Et c'est ça qui fait que parfois, on est à une situation où le gouvernement demande que les personnes puissent porter plainte, mais en réalité, nous, ce que nous demandons, c'est que des enquêtes puissent être menées, et il y a moyen de le faire, pour que justement on puisse identifier ces personnes. Et souvent, nous leur donnons des informations qui devraient leur permettre d'identifier certaines personnes par rapport à certains incidents. Il y a un rapport que le gouvernement a pu faire par rapport à ce qui s'est passé dans un hôtel qui est situé pas très loin du compound des Nations Unies, et on a vu qu'il y avait un minimum de volonté, puisque sur cette base-là, ils ont pu arrêter l'une ou l'autre personne impliquée dans ces événements. Donc il y a une question de volonté politique, mais il y a aussi une question d'engagement pour amener les personnes impliquées dans ces violations des droits de l'homme à répondre de leurs actes.
Alors on le sait, il y a deux parties au conflit. Visiblement, dans votre communiqué, vous renvoyez dos à dos ces deux parties. Donc vraiment, aujourd'hui, les responsabilités sont totalement partagées.
Bon, elles sont partagées, mais pas dans la même mesure. Je crois que la plupart des violations sont plus imputables à la partie gouvernementale. La partie de l'opposition a aussi sa part de responsabilité. Et il est important que, quelles que soient les personnes qui sont impliquées dans ces violations, elles puissent répondre de leurs actes. Mais c'est surtout au gouvernement, compte tenu de ses obligations en termes de protection des droits de l'homme, qui a la grande responsabilité dans ces violations et qui peut prendre les mesures qu'il faut pour y mettre un terme et mettre les personnes responsables devant la justice.
Et c'est avec Eugène Nindorera que se referme ce journal radio de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. L'info se poursuit en direct ou en rediffusion dans la matinée du 17 janvier. Merci d'être avec nous. On commence ce bloc des nouvelles provinciales avec une nouvelle qui concerne les communautés autochtones. Des autochtones accusent la ministre Carolyn Bennett de négliger les services à l'enfance. Des dirigeants de Premières Nations britanno-colombiennes accusent la ministre fédérale des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, d'appliquer des tactiques dilatoires, donc de chercher à gagner du temps en ce qui concerne les services à l'enfance autochtone. Les dirigeants du sommet des Premières Nations, de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique et du chapitre britanno-colombien de l'Assemblée des Premières Nations estiment que la ministre Bennett tente de remettre à plus tard les changements qu'elle doit apporter au dossier de l'aide accordée aux enfants autochtones. Ces organismes ont de fait envoyé le 6 décembre 2016 une lettre à la ministre Bennett pour faire part de leur scepticisme. Ils ont par la même occasion signifié leur mécontentement quant à la nomination en novembre de la docteure Cynthia Wesley Esquimau. Cette dernière a été choisie comme représentante spéciale de la ministre dans le dossier de l'aide aux enfants pour répondre au jugement du tribunal des droits de la personne. Le tribunal, rappelle cet article de Radio-Canada, avait en effet statué l'an dernier que le Canada doit offrir le même genre de services aux enfants autochtones que ceux offert par les provinces. Les groupes autochtones, quant à eux, ont indiqué dans leur lettre ouverte à la ministre que la nomination d'une représentante spéciale est inutile, puisque le jugement du Tribunal des droits de la personne est clair et sans équivoque, disent-ils. Le Canada, écrivent-ils, doit immédiatement se conformer à la décision de justice. Il n'y a aucune raison qui justifie le maintien de politiques fiscales racistes. C'est la déclaration du Rassemblement des chefs autochtones de la Colombie-Britannique en date du 6 décembre. De son côté, la ministre Bennett a indiqué que cette nomination, donc la nomination de la docteure Cynthia Wesley Esquimau, n'est en rien une tactique pour gagner du temps ou se soustraire à des responsabilités ministérielles. Je souhaite réellement, a dit la ministre, changer le système et passer d'un système de protection des enfants à celui plus large du bien-être des enfants, a-t-elle indiqué. Selon la ministre, la nomination de Cynthia Wesley Esquimau lui permet de redoubler d'efforts et de recueillir les commentaires des communautés autochtones. Donc, vous trouverez cet article dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada sur le web. Et nous allons passer à présent à une autre nouvelle qui paraît sur le même portail. Une nouvelle rapidement qui concerne le tourisme en Colombie-Britannique. Il semble que l'industrie touristique ait bénéficié de la visite royale de l'automne dernier. C'est ce que nous rapporte du moins Radio-Canada. L'organisme provincial de promotion du tourisme Destination BC a constaté de belles retombées depuis la visite du prince William et de son épouse Kate Middleton avec leurs deux enfants l'automne dernier. Entre janvier et octobre 2016, près de 4,9 millions de visiteurs internationaux se sont rendus en Colombie-Britannique, soit une augmentation de 12% par rapport à la même période en 2015, indique Statistique Canada. Si le secteur du tourisme ne cesse de progresser depuis plusieurs années en Colombie-Britannique, la visite royale semble avoir apporté un coup de pouce supplémentaire, ce qui fait briller davantage la province aux yeux du reste du monde. C'est ce qu'indique cet article. Personnellement, j'ai pu le constater. Le nom de la Colombie-Britannique a été maintes fois cité dans la presse internationale suite à cette visite. Donc, ceux qui n'aiment pas vraiment la monarchie, ni le système monarchique, la présence de ces têtes couronnées dans notre pays, peuvent au moins se consoler en apprenant que leur visite a en quelque sorte favorisé l'économie locale. Donc, c'est peut-être un petit point positif à apporter à cette visite, pour ceux qui s'y opposaient bien sûr. Donc le tourisme en Colombie-Britannique en pleine forme depuis la visite royale, c'est rapporté par Radio-Canada. Autrement, on a un beau portrait du Vancouver Island Party dans le Souk News Mirror, qui est un journal local de la ville de Souk, qui est situé à peut-être une quarantaine de minutes de Victoria en voiture. Donc dans le Souk News Mirror, on parle du Vancouver Island Party. Je ne sais pas si vous connaissez ce parti. C'est un parti qui souhaite faire de l'île de Vancouver une province à part entière, donc séparer l'île de Vancouver de la province de Colombie-Britannique. C'est très ambitieux. C'est un parti qui existe réellement et son chef Robin Richardson est interviewé dans cet article intitulé « Vancouver Island Party Eyes LRT for Souk South Island ». Donc il est précisément question des plans de ce parti dans le dossier du transport en commun. Le parti se dit progressiste, social, un peu dans la lignée du NPD, et il a de grandes ambitions pour l'île de Vancouver en matière de transport en commun. Il projette dans son programme des lignes de trains à rail léger, qu'on appelle. On parle aussi d'une liaison entre l'île et le continent par pont du côté du nord de l'île, un petit peu au nord de Nanaimo, à Campbell River. Alors, c'est un parti qui a de grandes idées. Alors, si vous voulez vous familiariser, ça peut vous sembler insolite, mais le chef de ce parti est très sérieux et ils espèrent à l'élection de mai prochain, l'élection provinciale de mai, faire élire des représentants ici sur l'île de Vancouver. Donc c'est dans le Souk News Mirror si vous voulez faire connaissance avec le Vancouver Island Party qui veut faire de l'île de Vancouver une province. Du côté du Vancouver Sun, on nous parle de cette marche des femmes qui aura lieu le samedi 21 janvier, oui, à Vancouver et à Victoria. C'est une marche des femmes qui se déroulera en solidarité avec la marche des femmes qui aura lieu à Washington au lendemain de l'inauguration de Donald Trump. Donc c'est une marche des femmes, bien sûr, qui sont en opposition avec la misogynie de Trump. C'est une marche qui va probablement réunir des centaines de milliers de personnes à Washington, des dizaines de milliers de femmes en tout cas. Autour de la capitale et des bâtiments principaux du gouvernement américain. Donc, en solidarité, des marches sont organisées le même jour à Vancouver et à Victoria. À Victoria, ça commence à 13h au carré Centennial. Donc, on peut s'attendre à voir quelques centaines de personnes à cette marche. C'est rapporté dans le Vancouver Sun et dans le Times Colonist, si vous voulez vous familiariser avec avec ce projet de marche des femmes qui aura lieu le samedi 21 janvier. Autrement, dans le portail de Radio-Canada, on fait un petit retour dans le portail de Radio-Canada où l'on apprend que le maire de Vancouver, Greg Robertson, a un taux d'abrobation en chute qui est en baisse actuellement ce taux d'abrobation atteint 50%, il était plus élevé auparavant. Je vous lis quelques lignes de cet article. Le taux de satisfaction de la gouvernance de Gregor Robertson, le maire de Vancouver, est un des plus bas parmi les maires d'une dizaine de municipalités canadiennes, selon un sondage de la firme Main Street Research. La firme a demandé aux répondants ce qu'ils pensaient de la performance de leur maire. Ils avaient un choix de réponse allant de fortement en accord à fortement en désaccord. M. Robertson a obtenu 50% comme taux d'approbation, le pire taux de tous les autres maires. Mais l'article précise bien que ce sondage a été mené suite au temps très rigoureux, au froid rigoureux qui s'est abattu sur la métropole britanno-colombienne. Et la réponse des autorités municipales à cette vague de froid et à ces chutes de neige n'a pas plu à tous les Vancouverois. On a eu l'épisode du sel qui a été distribué dans les casernes de pompiers. Ça donne une idée un petit peu des épisodes qui se sont suivis durant cette vague de froid. Alors, l'article précise bien que le taux d'approbation en baisse du maire Robertson est associé probablement aux difficultés de climat, au froid rigoureux qui a pesé sur Vancouver au cours des dernières semaines. Donc, si vous voulez consulter cet article, c'est sur le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique. Et sinon, pour refermer ce bloc provincial et local, la nouvelle que je vous cite provient de Saskatchewan, mais comme la Colombie-Britannique a connu d'importants problèmes de surdose, vous le savez, la province est en état d'urgence sanitaire actuellement. Je vous parle quand même de cette nouvelle qui provient de Saskatchewan. Une substance chimique expérimentale appelée le W18 et considérée comme extrêmement dangereuse a fait son apparition en Saskatchewan, où elle a été associée à d'autres drogues de rue impliquées dans un certain nombre de surdoses fatale. Un avertissement de l'Ordre des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan attire l'attention sur le fait que les fournisseurs de soins de santé devraient faire preuve d'une extrême vigilance et de prudence lorsqu'ils traitent de cas de surdosage au fentanyl et autres médicaments similaires. Le W18, comme on l'appelle, est décrit comme un produit de recherche synthétique dangereux et potentiellement mortel, qui peut également être nocif simplement lors de sa manipulation. Le Collège des médecins et chirurgiens recommande pour l'instant l'utilisation de la naloxone comme contre-traitement ou antidote, si vous préférez, au W18. Alors, on espère que le W18 ne fera pas son apparition en Colombie-Britannique et qu'il sera rapidement maîtrisé en Saskatchewan. Donc, on continue de suivre, bien sûr, ce dossier de la crise des surdoses en Colombie-Britannique et un peu partout au pays. Alors, c'est le moment de marquer la pause. On va faire marquer une petite pause musicale. On écoute un succès des Hey Babies. Le groupe Hey Babies, vous rappelez qu'il avait été sélectionné parmi les francophones, les 10 francophones les plus influents du Canada, hors Québec. Donc, on va écouter, tiré de leur dernier album, une pièce intitulée Motel 1755. On se retrouve dans quelques minutes.
Viens, mon motel, c'est la pizza que des pégots. Tu peux coucher sur un sofa, tu peux sleeper in a Viens mon motel, j'ai la pizza et des bagels. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper in ou dans le car. Viens mon motel, t'as pas à t'expliquer. Les mains s'appellent bien, surtout quand ça va pas bien. Y'a des portes qui restent barrées, des cendres qui soufflent, y'a des TV qui jouent fort, du monde qui s'engueule, du monde qui prend des wake up calls juste pour que se réveiller seul. Ils viennent au moment.
À Victoria, il est 16h31. On vient d'entendre les Hey Babies avec la pièce 17:55. L'info se poursuit dans le débrief. C'est le moment d'ouvrir le bloc des nouvelles du jour. On commence avec une nouvelle qui nous parvient de l'agence France Presse et c'est tout à fait opportun de la signaler puisque le sommet de Davos s'ouvre ces jours-ci. 8 personnes aussi riches que 50% de la population mondiale. Oui, vous avez bien entendu, 8 personnes sur la planète détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Une situation indécente qui exacerbe les inégalités, dénonce l'ONG britannique Oxfam dans un rapport publié en amont du World Economic Forum, le WEF, qui s'ouvre mardi à Davos, en Suisse. Il est indécent que tant de richesses soient concentrées dans les mains d'une si infime minorité quand on sait qu'une personne sur 10 dans le monde vit avec moins de $2 par jour, affirme la porte-parole d'Oxfam France Manon Aubry dans un communiqué émis cette semaine. Ce rapport, intitulé « Une économie au service des 99%, dévoile comment les grandes entreprises et les individus les plus riches exacerbent les inégalités en exploitant un système économique défaillant, en éludant l'impôt, en réduisant les salaires et en maximisant les revenus des actionnaires. Selon l'ONG Oxfam, à ce rythme, le premier super milliardaire du monde pourrait voir son patrimoine dépasser le millier de milliards de dollars dans 25 ans à peine. Pour dépenser cette somme, il faudrait à cette personne débourser $1 million par jour pendant 2738 ans, souligne l'ONG Oxfam dans son communiqué. Oxfam, qui a pris l'habitude d'attirer l'attention sur les inégalités croissantes à l'occasion du rendez-vous mondial de Davos en Suisse, qui se tient cette semaine jusqu'à samedi prochain, dénonce la pression qui s'exerce sur les salaires partout dans le monde, ainsi que les allègements fiscaux dont bénéficient les entreprises ou encore le recours aux paradis fiscaux. Alors, plus tôt cette année, on a eu les Panama Papers, mais ça n'était que la pointe de l'iceberg. Et donc, Oxfam, dans ce communiqué, poursuit, Les entreprises optimisent leurs bénéfices, notamment en allégeant le plus possible leurs charges fiscales, privant ainsi les États des ressources essentielles pour financer les politiques et les services nécessaires pour réduire les inégalités, souligne le rapport. L'ONG Oxfam, qui s'appuie sur de nouvelles données plus précises sur la répartition de la richesse dans le monde, appelle les gouvernements à réagir et à se tourner vers une économie plus centrée sur l'humain. Quand les responsables politiques arrêteront d'être obsédés par le produit intérieur brut, le PIB, et se focaliseront sur l'intérêt de l'ensemble de leurs citoyens, et non seulement sur les intérêts d'une élite, un avenir meilleur sera possible pour toutes et tous, assure Madame Aubry, qui est la porte-parole d'Oxfam ici dans ce dossier. La France n'échappe pas aux critiques d'Oxfam. Selon l'étude, 21 milliardaires possédaient autant que 40% de la population la plus pauvre française en 2016. Donc c'est une dépêche de l'agence France-Presse. Il y a évidemment un petit passage sur la France. Dernier paragraphe de cet article. L'an dernier, Oxfam avait dénoncé que le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde avait dépassé en 2015 celui des 99% restants avec un an d'avance sur les prévisions. Donc, si vous voulez prendre connaissance de ce rapport, passez d'abord par cet article de l'agence France-Presse. 8 personnes aussi riches que 50% de la population mondiale. Joyeux Davos à tous les participants, autrement dit. Et on va passer à un article qui est publié dans les pages du journal La Presse. 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Accueil tiède pour les célébrations à 500 millions de dollars. C'est un article qui est signé Joël Denis Bellavance dans le journal La Presse. Le gouvernement Trudeau entend consacrer cette année pas moins de 500 millions de dollars aux célébrations visant à marquer le 150e anniversaire de la Confédération. Mais le tiers des Canadiens accueille avec un haussement d'épaule l'intention d'Ottawa de souligner en grande pompe cet événement historique, selon un sondage commandé par le ministère du Patrimoine canadien. Avant de lancer les festivités entourant le 150e anniversaire, le ministère du Patrimoine, qui est responsable du dossier, avait voulu prendre le pouls de la population canadienne relativement à cet événement et avait mené un grand sondage sous l'égide de la firme Léger auprès de 2191 personnes au Canada. Et ce sondage a permis de mesurer l'intérêt des Canadiens de toutes les provinces pour les célébrations des 150 ans et également leur attachement au Canada en cette année de 150e, écrit Joël Denis Bellavance dans cet article de La Presse. Les résultats, écrit-il, démontrent que si 95% des Canadiens se disent attachés à leur pays, ce patriotisme ne signifie pas qu'ils vont se précipiter sur les célébrations du 150e. Alors, selon ce sondage, poursuit l'article, qui a été réalisé du 3 au 24 juin 2016, près du tiers des Canadiens, 31%, ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de participer aux célébrations entourant le 150e. Pourquoi? Les raisons sont multiples, mais celles qui sont les plus souvent évoquées sont le manque de temps, ensuite le manque d'intérêt. Il y a aussi une tranche de 15% qui affirme ne pas avoir les moyens financiers de s'offrir de telles activités. Alors, c'est une ventilation intéressante des résultats du sondage qui est effectué ici dans cet article par le journaliste Joël Denis Bellavance. C'est dans La Presse sous le titre 150e de la Confédération, accueil tiède pour les célébrations à 500 millions. Autrement, sur la scène internationale maintenant, pour refermer ce bloc nouvelle du jour, Brexit. Ça a été un des mots de l'année 2016, le Brexit. Le chantage de Londres qui menace de devenir un paradis fiscal. C'est un article qui paraît dans le journal Le Monde. Pour peser de tout son poids face à l'Union européenne, le Royaume-Uni envisage de pratiquer le dumping fiscal et social aux portes de l'Europe. Et c'est ce que nous rapporte Le Monde. Si les 27 pays de l'Union européenne n'accepte pas les exigences du Royaume-Uni, Londres deviendra une sorte de paquebot pratiquant le dumping fiscal et social aux portes du continent. Tel est le chantage qu'a développé le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, dimanche 15 janvier, deux jours avant que la première ministre, Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne, ne prononce un discours présenté comme stratégique sur le Brexit, le British Exit, suite au référendum du 23 juin dernier, évidemment. Alors si, continue cet article du Monde, le Royaume-Uni n'obtient aucun accès au marché européen dans la foulée des négociations avec l'Europe, le pays pourrait changer de modèle économique pour regagner de la compétitivité, menace le chancelier de l'échiquier dans le journal allemand Welt am Sonntag. Tout en affirmant sa préférence pour le maintien de son pays dans un système d'impôts et de régulations européens, le numéro 2 du gouvernement de Theresa May affirme que si tel n'est pas le cas, les Britanniques ne vont pas se coucher, en guillemets. Nous changerons de modèle et reviendrons avec une compétitivité nouvelle, a-t-il affirmé, s'attirant les foudres du chef de l'opposition, le Jeremy Corbyn, qui est le chef du Labour, pour qui ce choix d'une économie au rabais sur les rives de l'Europe prépare une sorte de guerre commerciale avec l'Europe. Donc, on a un autre cas de protectionnisme et de dumping fiscal et social après les gesticulations de Donald Trump qui est lui parti pour être un champion du protectionnisme. Voilà que la Grande-Bretagne s'y met elle aussi. Alors c'est dans le journal Le Monde, Brexit, le chantage de Londres qui menace de devenir un paradis fiscal. Alors on fait une autre petite pause musicale rapidement. Au retour, ce sera la revue de presse des éditoriaux. Je vous propose d'entendre une pièce d'Automate intitulée Mea Culpa. On se retrouve dans quelques minutes.
Yeah.
La pièce Mea Culpa de la formation Automate dans l'émission Le Débrief à 16h43. Merci d'être à l'écoute, où que vous soyez, en voiture, à la maison ou au travail. Il reste encore quelques minutes à l'émission, restez bien à l'écoute. On va passer aux éditoriaux, à la revue de presse des éditoriaux. Je vais retenir un seul sujet aujourd'hui, les vacances de Justin Trudeau, qui ont causé beaucoup de d'interrogations et suscité certaines critiques de la part de l'opposition et de la part de certains commentateurs. Alors aujourd'hui, dans les pages du journal La Presse, l'éditorialiste en chef du journal, Paul Journet, successeur d'André Pratt, intitule son texte « Un peu trop d'altitude » et ça s'adresse directement à Justin Trudeau. « Le voyage de Justin Trudeau et d'autres libéraux sur l'île privée de Lagacan n'est peut-être pas le scandale que dénonce l'opposition, mais il dénote un réel danger, celui d'une lente dérive vers l'insouciance et l'arrogance. » Alors c'est l'avertissement que sert Paul Journet, éditorialiste à La Presse, au Premier ministre canadien. Alors on se souviendra que le Premier ministre a passé une partie des fêtes de fin d'année sur une île privée, celle d'un milliardaire, Lagacan, qui est à la tête d'une communauté d'adeptes, donc c'est un chef spirituel d'obédience musulmane. Justin Trudeau s'est envolé vers cette île privée. Il a d'ailleurs manqué les célébrations du 150e, le coup d'envoi qui était donné aux célébrations du 150e en choisissant de plutôt aller passer quelques moments avec Lagacan, comme on l'appelle. Alors, évidemment, l'opposition s'est précipitée là-dessus, particulièrement les conservateurs. Et il faut dire qu'effectivement, il y a une apparence de conflit d'intérêts qui est assez importante. D'ailleurs, la commissaire à l'éthique va se pencher sur la question au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Alors, je retiens pour vous quelques passages de ce papier d'opinion rédigé par Paul Journet dans La Presse. Si le sujet préoccupe, c'est pour ce qu'il révèle de Justin Trudeau, un décalage entre la parole et les gestes en matière d'éthique, écrit. Et un petit peu plus loin, en conclusion de son texte, déjà, on constate les conséquences. Justin Trudeau n'assistera pas au Forum économique mondial de Davos, où il aurait pu échanger avec d'autres chefs d'État et investisseurs. Il se lance plutôt dans une tournée pan-canadienne ces jours-ci pour prouver qu'il écoute les gens ordinaires. Cela devrait consolider sa place au sommet des sondages, certes, mais il ne devrait pas confondre la popularité avec la probité. Alors voilà, c'est le papier qu'écrit Paul Journet, l'éditorial que soumet Paul Journet à ses lecteurs aujourd'hui dans La Presse. C'est intitulé « Un peu trop d'altitude ». Et du côté du portail Vice.com, dans la section francophone du portail Vice.com, il y a également un excellent papier de Jake Kinvank. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de ce journaliste, Jake Kinvank. Et c'est intitulé « Les vacances controversées de Justin Trudeau avec Lagacan ». Alors, c'est un survol des faits avec un commentaire et c'est très pertinent aussi de la part de ce journaliste Jake Kinvank dans le portail Vice.com sur le versant francophone du site. Alors, le temps file à vive allure. On va se rendre à l'interview du jour. Je vous le disais en intro d'émission, on reçoit aujourd'hui au bout du fil Maurice Guibord, qui est le président de la Société francophone historique de Colombie-Britannique. Et ce n'est pas à propos de la société qu'on s'entretient aujourd'hui, mais à propos d'un intérêt très prononcé de Maurice Guibord. C'est une passion, véritablement, une passion pour l'Expo universelle de Montréal 1967, Expo 67. On va en parler dans quelques minutes avec Maurice Guibord. Il va prononcer une conférence là-dessus cette semaine. C'est un grand collectionneur d'objets liés à Expo 67. Vous allez voir, c'est tout de suite dans le débrief 16h47. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'info quotidien. Nous allons parler d'histoire. À présent, j'ai au bout du fil l'historien Maurice Guibord. Bonjour, Monsieur Guibord.
Bonjour.
Monsieur Guibord, vous êtes président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. J'ai eu le plaisir de vous voir récemment lors du 30e anniversaire de l'Association historique des francophones de Victoria. C'était juste avant Noël. Et on a à nouveau l'occasion de se parler. Cette fois-ci, c'est pas à propos de la Colombie-Britannique, c'est à propos d'un événement qui a marqué les esprits à la fin des années 60, Expo 67. C'est un événement qui a marqué le Québec, mais aussi le Canada en entier. Et il se trouve que vous êtes en quelque sorte un expert d'Expo 67.
Ben voilà que depuis que j'ai commencé, en fait, à collectionner tous les souvenirs, tout ce qui avait trait à l'Expo 67, il y allait de soi. J'en ai beaucoup appris, n'est-ce pas?
Ouais.
Il y en a toujours davantage à absorber. Mais voilà, je suis l'un des plus grands collectionneurs d'Expo 67 au pays.
Alors, c'est là-dessus, sur cet événement mémorable, que portera votre conférence que vous allez donner cette semaine, jeudi 19, au Musée de Vancouver. Alors, c'est un rendez-vous pour nos auditeurs qui se trouveront du côté de Vancouver cette semaine. Autrement, on peut quand même recueillir quelques infos auprès de vous. Est-ce que vous avez, vous, fréquenté Expo 67 ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes intéressé après coup, par la suite?
J'avais, en fin de compte, 13 ans, l'année de l'Expo. J'habitais à Ottawa, je suis franco-ontarien, et avec ma famille, on n'était vraiment pas bien nantis, mais tous les groupes scolaires de brigadiers, de scouts, etc., se rendaient quand même en groupe pour visiter l'Expo. C'était à ne pas manquer, donc j'ai eu l'occasion d'y aller souvent. Et en plus, à multiples reprises au fil des décennies qui ont suivi, à Terre des Hommes, n'est-ce pas? Donc, c'était vraiment inoubliable. Je me rappelle, même si j'avais que 13 ans, je me suis senti complètement épanoui aussitôt rendu sur le site. Je peux catégoriquement avouer que ça a changé ma vie, cette première visite. Le site lui-même m'a emporté du fait que, ben, puisque c'était une exposition de type universel, là, il y avait une soixantaine de pays. Faut tenir compte qu'il y avait beaucoup moins de pays au monde qu'il y en a aujourd'hui. Une soixantaine de pays qui exposaient, qui avaient créé eux-mêmes leur propre pavillon, qui, dans le contexte d'une exposition universelle, se doivent être des chefs-d'œuvre techniques et architecturaux. Donc, on voyait du jamais vu, du pittoresque, de l'incroyable absolument, et ça m'a complètement emporté, même si du point de vue technique, vraiment, j'étais nul, mais je me rappelle avoir arrêté carrément puis prendre des photos de des énormes ancres, par exemple, de la tente qui formait d'un genre de tente qui formait le pavillon de l'Allemagne de l'Ouest. Hein, on se replace au fil du temps, bien sûr. On voyait des styles phénoménaux, bien sûr, comme le dôme géodésique de Buckminster Fuller, soit le pavillon des États-Unis, dont la forme a été reprise soit en pleine taille ou soit même coupée à moitié, etc., dans multiples usages internationaux, commerciaux, tout ce que vous voulez. Puis on a en plus qu'à se rappeler du pavillon thème de l'Expo 86. Voilà, il a repris cette forme-là, qui est aujourd'hui Science World.
Oui. Donc, vous parlez bien sûr de la sphère qui est aujourd'hui occupée par un musée naturel sur l'île Notre-Dame à Montréal.
Tout à fait, la biosphère.
La biosphère, voilà. Donc, peu de gens le savent, ou enfin les plus jeunes le savent sans doute pas, cette sphère-là avait des panneaux de verre à l'origine.
C'était des panneaux de plastique, en fait. Il y a une structure métallique sur laquelle on a carrément étendu un genre de plastique qui se fondait sur place. Mm-hmm. Mais durant les années 76, je pense, il y avait un ouvrier qui travaillait là-dessus pour réparer des fuites, et une flémèche d'une torche en fait fondre en dedans de quelques minutes l'ensemble de cette couverture de plastique. Mm. Donc, il ne reste en effet que la structure.
Oui.
De toute façon, c'était transparent. On ne voyait même pas on ne voyait que la structure. Et voilà la beauté, en fin de compte, de cette de cette pièce magistrale architecturale. Oui. Même une fois fondu, c'est toujours impressionnant.
Alors, il y avait de nombreux pavillons qui étaient renversants. Le pavillon de la France, qui est aujourd'hui, on pourrait presque dire malheureusement un casino, mais bref, en 67, c'était un ouvrage vraiment sidérant de beauté. Les autres pays se sont aussi dépassés. Vous dites que l'expo a changé votre vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, du fait que, si vous pensez, pour ceux qui sont de mon âge, donc les années 60, ça a été une période où vraiment les Canadiens français en particulier se sont rendus compte de qui ils étaient et qu'ils avaient leur part à jouer dans le monde. Donc c'est ça, moi, puisque je faisais partie d'une famille quand même assez pauvre, on ne voyageait pas beaucoup, même les Canadiens français en général à ce moment-là, on était quand même assez casaniers. Mais là, je me suis rendu compte, comme bien d'autres d'ailleurs, il y avait un monde énorme qui se présentait devant nous et qui nous invitait à aller le découvrir. Donc, de ce fait, je me suis décidé sur le coup, je vais devenir voyageur mondial, ce que j'ai fait. En plus, j'ai été émerveillé de par les pièces culturelles et archéologiques qu'on exposait dans bon nombre des pavillons de pays tels l'Iran, l'Éthiopie, etc. Mm. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ce qui m'attire. Je suis devenu archéologue aussi. Donc, vraiment des moments critiques qui ont, sur le coup, façonné la vie que j'allais vivre.
Vous avez commencé à collectionner autour du thème d'Expo 67. À quel moment?
Ben, à ce moment-là, il pleuvait des souvenirs d'expo. Toutes les banques distribuaient des choses. On avait des bébelles qu'on donnait dans les écoles. C'était tout pour la publicité, bien sûr. Chapeau très, très, très bien fait aux États-Unis et à l'international aussi. Mais une fois, quand j'ai eu à déménager donc vers l'ouest, à Calgary puis à Vancouver, j'ai tout simplement jeté ou remisé ces choses-là. Et c'est après l'Expo 86 de Vancouver que j'ai recommencé de plus belle. Et finalement, je me suis dit, là, ça me rappelle tellement de choses incroyables. Non seulement ça, mais les souvenirs eux-mêmes représentaient des pièces d'époque du genre qu'on ne voit plus aujourd'hui, qu'on ne fait plus aujourd'hui, soit par leur usage, soit par leurs matériaux, leur design.
D'accord. Et justement, lors de votre conférence de jeudi soir, vous allez apporter quelques-uns de ces objets, j'imagine?
Ben voilà que le musée de Vancouver expose depuis juin une énorme, sa plus grande exposition de son histoire, et c'est sur les collectionneurs. Donc, il y a des parties de collection de 25 collectionneurs, et si, pour vous donner une idée, par exemple, un collectionneur de jouets, il a plus de presque 2000 pièces d'exposées, d'accord? Donc, c'est vraiment énorme, c'est impressionnant, c'est très diversifié, et voilà que une bonne partie de ma collection y est exposée depuis juin. Donc, ça fait partie de l'exposition sur les collectionneurs.
D'accord.
Donc, les gens vont pouvoir visiter cette expo-là aussi. Mais, bien sûr, dans la présentation, je montre des diapos de bien des choses. Et on va finir quand même avec une pièce intéressante. Bon nombre de souvenirs qu'on considérait inappropriés aujourd'hui sont reliés au tabagisme. Bien
oui.
sûr, durant les années 60, ça fumait.
Oui.
Et il y avait même des cigarettes Expo 67. Vous vous rendez compte? Donc, de mettre sa griffe sur une cigarette aujourd'hui, ça ne se ferait tout simplement plus. Mais j'en ai quand même retrouvé deux tailles de paquets,
oui.
plein en fait, comptes de cigarettes.
Ah.
Donc, finalement, on va clore la conférence jeudi en sortant dehors et je choisirai deux fumeurs qui va célébrer l'Expo 67 en fumant une cigarette Expo 67.
D'accord, et ça permettra de mesurer le chemin qu'on a parcouru en tant que société depuis ce lointain été de 1967. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous craignez que votre salle, votre auditoire, soit parsemé de chauvins qui vont plutôt dire « Non, la meilleure expo universitaire, c'était Vancouver en 86 ».
je les comprendrais bien parce que finalement, puisqu'il existe deux types d'expositions universelles, j'avais bien d'expositions internationales, les universelles comme celle de 67 et les spécialisées comme celle de 86, ça va être très bien expliqué. Cependant, oui. Je veux bien faire souligner le fait que comme exposition spécialisée, Expo 86 a dépassé toutes les attentes en plus. On se rappelle de beaux pavillons aussi, de très beaux pavillons à l'Expo 86.
Oui, oui, oui. D'accord. Alors, ça promet d'être une soirée très instructive et aussi amusante avec les exemples et la pièce de résistance que vous aurez à la toute fin. Maurice Bibard, un grand merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler de votre conférence sur Expo 67 qui sera prononcée au Musée de Vancouver ce jeudi à 19h. Et à très bientôt, j'espère.
Et de même, bonne année en passant.
Bonne année, gros merci.
Au revoir.
Grand merci à l'historien Maurice Guibord à propos de cette conférence qui sera prononcée jeudi 19 janvier. Et M. Guibord m'indiquait qu'il espère que la conférence sera filmée et déposée sur le web subséquemment, auquel cas, bien sûr, je vous en informerai et on pourra avoir l'intégralité des propos de Maurice Guibord sur Expo 67 et sur sa collection qui a fait l'objet d'une exposition au musée municipal de Vancouver. Donc, c'est déjà tout pour le débrief. On a 6 degrés au centre-ville actuellement, de la pluie intermittente en soirée. Même chose demain, avec un maximum de 9, donc ça se réchauffe. À tous, une excellente soirée. À demain, même heure, même fréquence.
FM, la voix de...